Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Rafik Smati, bonjour. Bonjour Rafik.
Bonjour Valérie.
Vous m'entendez bien, vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Bonjour à vous, Éric Tegner, journaliste,
bonjour.
Directeur de la rédaction du média en ligne Livre Noir.
Bonjour Valérie.
Et avec nous également Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste
bonjour.
Sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour à vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule dans un instant. Les sujets à la une de l'actualité, eh bien ce sont ces femmes et ces enfants qui ont été rapatriés de Syrie, des femmes qui étaient parties combattre, en tout cas aux côtés de leurs conjoints. On nous avait dit qu'aucune femme ne rentrerait. Qu'en pensez-vous? On en reparlera. On va parler des grèves SNCF, des grèves également dans les aéroports, la pagaille annoncée et puis ce droit de grève, évidemment, qu'on ne remet pas en cause, mais qui à chaque fois permet des négociations qui sont tendue et qui occasionne quand même un certain nombre de problèmes pour les Français. Christian Estrosi impose le port du masque dans les transports à Nice dès lundi. Qu'en pensez-vous? Et puis le baptême du feu pour Elisabeth Borne avec son discours de politique générale. Commençons par ce qui a retenu votre attention, Rafik Smati, cocorico pour une fois.
Alors oui, c'est un cocorico un petit peu nuancé. Hier, oui. Un Français qui s'appelle Hugo Dumitil Copin a eu la médaille Fields de mathématiques. La médaille Fields de mathématiques, c'est la distinction la plus élevée en matière de mathématiques. C'est l'équivalent du prix Nobel. Et c'est le 13e Français qui gagne la médaille Fields, ce qui est extraordinaire. Il exerce sur le plateau de Saclay. Saclay, l'université de Saclay, qui est considérée dans le classement de Shanghai, qui est le plus prestigieux de tous, comme étant la première université du monde en matière de mathématiques. Donc en France, on est capable de produire des cerveaux brillants en matière de mathématiques et on est capable véritablement d'être un phare dans ce domaine qui est un domaine crucial. Seulement voilà, le même jour ou la veille, il y a eu un classement de l'OCDE qui est paru. Et dans ce classement de l'OCDE, bah, il apparaissait que les élèves français, les enfants de classe de CM1, étaient classés en avant-dernière position en termes de niveau en mathématiques. Avant-dernière position. Donc d'un côté, nous avons cette France qui excelle, cette France qui rayonne, et cette France qui nous fait honneur. Et d'un autre côté, il y a un déclassement éducatif majeur qui est la conséquence de 40 ans d'une éducation nationale qui a été abîmée, qui a été salie, qui a été vulgarisée par tous les gouvernements et en particulier ceux de François Mitterrand qui se sont succédés et qui ont tout nivelé vers le bas. Voilà la France d'aujourd'hui avec des pépites d'un côté qui sont capables de nous faire rayonner et d'un autre côté une réalité qui est notre réalité à nous, citoyens ordinaires, qui est celle d'un déclassement réel, objectif, tangible. Et ce déclassement en matière de mathématiques est extrêmement inquiétant. Je rappelle qu'on entre dans une ère de révolution technologique, dans une ère de science, de l'innovation, et les grandes nations qui réussiront à s'illustrer dans les décennies à venir sont celles qui seront le plus en pointe en matière de technologie, de science, d'innovation. Et bien lorsque l'on sacrifie à ce point-là l'éducation de nos enfants en matière de mathématiques, et bien on hypothèque l'avenir, et il ne faut pas que nos grands prix Nobel et médailles Fields soient l'arbre qui cache la forêt du déclin français.
Ouais. Enfin, il n'y a pas qu'en mathématiques, le français aussi laisse à désirer. Il y a tout un dossier dans le Figaro aujourd'hui. Hier, c'est Jean-Paul Brighelli aussi qui a publié une tribune pour parler du niveau même des meilleurs qui est en train de baisser. Puis juste, j'en parlais tout à l'heure dans le zapping, Gilles n'avait pas retenu le son, mais écoutez cette lycéenne, vous l'avez peut-être vue, la pauvre, elle a été vue des dizaines et des dizaines de milliers
pauvre,
de fois,
oui.
Mais ça illustre tout de même. Un certain, ce que vous disiez, une certaine baisse de niveau. Écoutez.
Je vais faire une prépa littéraire, donc voilà, je suis contente d'avoir des bonnes notes, parce que ça confirme que j'ai fait le bon choix. Si j'aurais pas eu mon bac, je pense pas que je serais allée en prépa littéraire là. Donc, je suis contente.
Voilà, si j'aurais pas eu mon bac, je serais pas allée en prépa littéraire. Voilà quoi, c'est donc elle va rentrer en prépa littéraire. On a vu circuler.
C'est la guerre des moutons.
Oui, on a vu circuler, c'est ça, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais vous parlez là aux plus anciens. Mais c'est vrai qu'on a vu circuler des extraits de copies du bac. Et ce matin, le Figaro rapporte aussi des citations d'influenceurs qui sont inclus dans des copies de philo ou dans des copies de français. Alexis Poulain, vous avez vu ça ?
J'allais y venir parce que le problème, c'est pas seulement l'éducation nationale, mais c'est des jeunes qui maintenant regardent des influenceurs qui sont des débiles légers, hein, qui sont à Dubaï, qui passent leur temps à vendre des produits stupides et à montrer leurs opérations de chirurgie esthétique, plutôt que de lire des livres, par exemple. Donc on a une culture qui se fait aujourd'hui sur la base de la vidéo, de la mauvaise vidéo, et sur la base d'un français approximatif. Donc qu'attendez-vous, si ce n'est une baisse de niveau général, les jeunes ne lisent plus de livres, voilà. C'est un vrai problème.
Et puis, ça me permet de dire quelques mots sur la vidéo hier de Karim Benzema également.
Formidable.
Qui montre.
Ça m'a fait plaisir parce qu'on se dit, il y a des gens pour qui, en fait, tout va bien. L'inflation n'existe pas, la guerre en Ukraine. Le mec, il est en vacances, il monte ses montres en or et ses Ferrari, ses Lamborghini, ses avions. Enfin, c'est le monde qui va bien d'hier. Puisque là, on nous parle quand même de.
Ouais. C'est pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc on voit effectivement Karim Benzema qui doit être, je pense, à Dubaï.
Je crois qu'il est aux États-Unis.
Il est aux États-Unis, donc on le voit avec donc s'entraîner, mais on le voit aussi surtout dans une Ferrari, sur un jet ski. Quelqu'un disait un chouette reportage, Karim Benzema nous montrant quelques gestes simples du quotidien pour préserver notre planète. Il était en train de regagner un petit peu de code d'amour auprès des Français. Je sais pas si ceux qui ne l'aimaient pas vont apprécier ce type de démonstration qui, là aussi, n'encourage pas forcément aux études. Peut-être un commentaire, Eric Tegner, sur ce que disait Rafik Smati sur le niveau scolaire qui baisse.
Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit M. Smati et surtout M. Poulain. C'est-à-dire que je pense que le problème, aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas véritablement l'éducation nationale. C'est qu'on est dans un monde où on n'arrive plus à se concentrer. Quand vous parlez même à des intellectuels, moi, j'en parle avec souvent, ils me disent que parfois, certains me disent qu'ils n'arrivent plus eux-mêmes à lire plus d'une heure un livre. Lorsque vous parlez à ceux qui font des magazines, ils vous disent que le papier, ça fonctionne de moins en moins, que les gens, ils l'achètent pour la une, mais ils ne lisent pas véritablement. Donc, il y a un problème de concentration. On n'a pas su aussi éduquer nos sociétés au goût de l'effort. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et surtout, appréhender ce fameux téléphone portable où effectivement, alors moi, je le sais parce que c'est mon média, typiquement, on est dans la vidéo et on sait très bien qu'en fait, les gens regardent des vidéos. Et pour se renseigner au sujet d'un livre, ils vont regarder la vidéo ou l'interview de la personne qui parle de ce livre. Ils vont peut-être acheter ce livre, mais ils ne vont pas lire ce livre. Et donc, ce sont les bases. Et aussi le fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être plus dur en CM1, en CM2, parce que finalement on se retrouve avec des élèves au bac qui n'ont même pas le niveau de CE2 en termes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire. Donc tout ça, c'est les bases. Et quant au niveau de mathématiques, je suis d'accord, on a quelques très très forts. Et en même temps, c'est vrai que même les principales grandes écoles de commerce ou grandes écoles d'ingénieurs font le constat que leurs élèves sont bien moins bons qu'il y a quelques années. Donc c'est pas seulement une problématique sociale. Là-dessus, il faut vraiment insister. D'ailleurs, vous avez plus de chances en général de réussir parce que vos parents sont professeurs, parce que du coup, ils savent très bien comment fonctionner lorsque les deux parents le sont. Mais si vos parents réussissent bien, ont de l'argent, etc., ce n'est pas forcément gage justement de réussite et d'avoir un aussi bon niveau qu'avant. Ça ne veut pas dire que tout est nul, bien sûr, mais ça veut dire que c'est d'abord un problème de société. Moi qui m'inquiète, mais qui part du principe qu'on se concentre beaucoup trop sur le bac. Je vous disais, il faut plutôt un meilleur niveau quand on a moins de 10 ans. Ensuite, je pense qu'il faudra être beaucoup plus sévère au moment du brevet, que beaucoup de gens aussi pourraient partir dans les filières professionnelles. Il y a ce paradoxe où on est dans un pays où finalement on est très élitiste, on veut forcément faire bac plus 5 et en même temps, qu'est-ce que ça apporte franchement aujourd'hui un bac plus 5? Moi, je vois personnellement, j'ai jamais autant appris de choses qu'en terminale et pendant mon lycée, parce que j'avais un super lycée où on était en pension, c'était super ordonné, on n'avait pas de téléphone pendant 3 semaines. Après, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Honnêtement, j'ai rien appris.
Je vous donne la parole dans un tout petit instant. Rafik Smati et puis Yves Damécourt. C'est l'heure du journal. Il est 10h57 sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Rafik Smati, président du mouvement Objectif France, chef d'entreprise, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, également Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste sur Sud Radio le mercredi matin, et Eric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média, enfin nouveau, il n'est plus média, il est plus nouveau, du média en ligne, Livre Noir. Le baptême du feu pour Elisabeth Borne, fallait-il rapatrier ses femmes et ses enfants de Syrie? Les grèves SNCF et aéroports de Paris qui menacent les vacances. Et puis Christian Estrosi, vous l'avez entendu dans le flash, dans le rappel des titres, qui va imposer le port du masque dans les transports à Nice. On ne vous a pas entendu, Éric Damécourt, puis je crois que Rafik voulait réagir également à ce qui était dit, Yves Damécourt, sur à la fois cette excellence avec la médaille Field qui, une fois encore, est attribué à un Français, et puis une baisse de niveau général qui est constatée par tout le monde.
Moi, je suis un pur produit des mathématiques, donc j'ai beaucoup d'admiration pour les lauréats de la médaille Fields et puis pour tous les gens qui étudient cette matière. Alors, tout le monde n'a pas la capacité à faire des mathématiques à un très haut niveau, mais il y a des élèves qui peuvent le faire et il faut les accompagner le plus loin possible. Il y a aussi des élèves qui ont une intelligence de la main. Ouais. Et donc, moi, j'en connais pas mal autour de moi. Des gens, d'ailleurs, qui, après un bac plus 4, bac plus 5, se disent, tiens, je vais me reconvertir et je vais apprendre un métier d'artisan. Donc, j'ai un jeune là dans mon entourage qui est en train de faire une formation de CAP de boucherie, alors qu'il avait un bac plus 5, qu'il était commercial dans une grande entreprise, et finalement, il se reconvertit dans la boucherie. J'ai un neveu qui est devenu charpentier après avoir fait des études brillantes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes générations qui cherchent à donner du sens à leur vie, à avoir des métiers qu'ils comprennent. Et donc, il faut les accompagner et assez tôt s'apercevoir qu'ils ont cette intelligence de la main. Parce que ce jeune qui est charpentier nous explique aussi que Il travaille avec des gens qui ont appris un certain nombre de gestes quand ils avaient 14 ou 15 ans, qu'ils étaient en apprentissage, et que lui ne pourra jamais apprendre ces gestes-là parce que la dextérité, il y a une dextérité dans l'intelligence de la main qu'on apprend quand on est jeune, exactement comme on a une dextérité dans les mathématiques ou dans les langues étrangères qu'on apprend quand on est jeune. Donc il faut revoir ce système.
Oui, mais enfin, vous savez très bien que l'apprentissage... Vous savez très bien que l'apprentissage jusqu'à, et peut-être encore maintenant, est assez mal vu. C'est pour des parents quand on dit, ben voilà, ce serait mieux que votre enfant, parce qu'en général, c'est les plus mauvais qu'on orientait vers ce système-là. Et on ne tenait pas compte, effectivement, des aptitudes ou des envies des enfants. Mais il y avait un côté punition à aller en apprentissage.
Oui, il y a une pression sociale aussi, d'ailleurs, parce que nous, on a un garçon qui, en troisième, s'ennuyait passablement sur les bancs de l'école et son prof d'espagnol est venu nous voir en disant « Mais votre fils, il a cette intelligence de la main, il faudrait essayer de lui l'envoyer en troisième MDP6. » La troisième MDP6, c'est une troisième qui avait été créée à l'époque quand François Fillon était ministre de l'Éducation nationale. C'est une troisième découverte du monde professionnel, qui est donc en fait une troisième classique, mais où on découvre un certain nombre de professions où on peut choisir une voie professionnelle après. Ouais. Et en fait, ça a été un grand succès. Ça, tout de suite, il s'est complètement ouvert à tout ça. Et derrière, il a enchaîné avec un lycée professionnel. Et aujourd'hui, il est bac plus 3 et il fait le métier qu'il voulait faire lorsqu'il était en quatrième. Ouais. Mais il y a une grande pression sociale, y compris parmi les élèves. Parce que quand on lui a soumis cette idée, il a dit « Mais que vont penser mes camarades ?» Et puis, il y a aussi un système, parce qu'à l'époque, moi, j'étais administrateur du collège de sauveterre. Il faut savoir que les principaux de collège sont notés en fonction du nombre d'élèves qu'ils envoient en filière générale et qu'à chaque fois qu'ils envoient des élèves en filière technique, eh bien, pour eux, ça baisse leur capacité à être promu dans le système.
Juste très rapidement, il faut préciser une chose à ceux qui nous écoutent, c'est que ceux qui s'orientent vers les filières professionnelles peuvent très très bien gagner leur vie. Alors évidemment, pas généralisé, mais moi j'ai le cas de gens que je connais qui travaillent dans les industries pharmaceutiques sur la partie production. Les techniciens sont bien mieux payés en fait que les pharmaciens, vous voyez. Donc parce qu'il y a l'expérience, parce que aujourd'hui la technique est de plus en plus importante. Et donc ça, il faut aussi le dire à nos élèves. Aujourd'hui, leur dire que vous allez potentiellement entrer sur le marché du travail plus tôt, donc partir à la retraite plus tôt, Et au lieu de payer une école de commerce ou l'autre très cher, vous allez acquérir du capital pour demain peut-être créer une entreprise ou acheter une maison. Et en plus, vous pouvez bien gagner votre vie.
Mmh. Rafik, vous voulez préciser ?
Oui, en effet. D'abord, sur les filières d'excellence, je rejoins complètement mes cours. L'apprentissage est une filière d'excellence. Et d'ailleurs, il y a eu un sursaut qui a été opéré ces dernières années, puisqu'il y a aujourd'hui deux fois plus d'apprentis qu'il y a quelques années. Ça, il faut le signaler. Je voudrais simplement nuancer ce qu'ont dit successivement Alexis Poulain et Éric Tegner, qui ont établi une sorte de lien de cause à effet entre le déclassement éducatif d'une part et d'autre part le nouveau modèle de civilisation extrêmement technologique dans lequel on entre, lié aux écrans, lié aux vidéos, etc. Je ne crois pas qu'il soit judicieux d'établir ce lien. Pourquoi ? Parce que dans le classement des élèves de CM1 de mathématiques, en fait, vous avez la Corée du Sud. Les Coréens du Sud ont des écrans comme nous, sont sujets aux vidéos, ils ont TikTok. Vous avez le Royaume-Uni qui est dans le top 5. Ils sont confrontés exactement à la même civilisation technologique que nous. Donc oui, en effet, il y a un fait civilisationnel qui est lié à l'émergence des écrans et à tous ces modes de communication qui incontestablement interfèrent dans l'éducation de nos enfants, mais nous devons balayer devant notre porte. Il y a aujourd'hui un fait majeur qui est le déclassement du système éducatif français parmi tous les autres, qui est lié à une politique d'égalitarisme absolument honteuse, qui est liée à l'absence de liberté, notamment de nos chefs d'établissement. Et les raisons, il y en a plein. Il y a aujourd'hui un fait majeur qui est propre à la France et nous devons balayer devant notre porte. Je crois que le pire face à une situation de crise, c'est de se défausser face à quelque chose qui nous dépasse, l'enjeu technologique Internet, pour ne rien faire, alors que nous avons des choses à faire en France.
C'est pas forcément se défausser, hein, si je puis me permettre, c'est simplement de dire que en France, aujourd'hui, on n'arrive pas justement à appréhender cette partie technologique, que ça nuit beaucoup à nos enfants et que du coup, je suis désolé, en termes d'investissement, quand je vois qu'on va investir dans des iPads pour les enfants en se disant, vous avez vu, on s'intéresse aux technologies, ça coûte cher au lieu de réparer les fenêtres ou autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné aussi, il y en a beaucoup qui vont utiliser parce qu'ils savent que ça fait moderne, ça fait justement celui qui comprend un peu les enjeux. Ils vont se dire, on investit dans des produits technologiques sans apprendre véritablement à utiliser ces outils technologiques. Et la vérité, c'est que les enfants ne savent pas le faire, ils ne savent pas le faire à la maison, ils ne savent pas se déconnecter, que les jeux vidéo, c'est pas forcément très bien quand on commence
on
trop jeune.
On n'est pas les seuls, hein. On n'est pas les seuls, ce que disait Rafik Smati. Tous les pays sont confrontés à ce phénomène des vidéos d'Internet. Ouais. Donc,
Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais vous savez, il y a certaines cultures, ils arrivent plus ou moins à appréhender un phénomène. Et je pense qu'en Asie, en Corée du Sud, etc., culturellement, ils y arrivent mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit balayer la technologie, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas juste copier le modèle et on ne doit pas non plus négliger les lettres, etc., qui sont aussi notre force, quoi.
Lisez le Figaro d'aujourd'hui parce que le dossier est assez intéressant sur cela et l'éditorial d'Éric je crois que c'est de Montetti qui l'a fait, se termine par cette information. Le ministre de l'Éducation nationale annonce vouloir intégrer au programme les thématiques liées au réchauffement climatique et à l'environnement. Il conclut en disant qu'il ne serait pas inutile qu'il pousse l'audace jusqu'à accroître l'apprentissage de la langue et de la littérature française. Voilà, ce serait peut-être aussi une bonne chose plutôt que de rajouter encore et toujours des machins. Et puis pour revenir sur ce que disait Alexis Poulain, c'est-à-dire plus on est d'un milieu social aisé, plus on a de chance, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. J'ai vu cette information sur le site de CNews d'un jeune homme qui s'appelle Enguerrand, qui a eu son bac avec 17,5 de moyenne au bac, et il ne pourra pas faire l'école qu'il veut. Alors là, c'est autre chose, c'est Parcoursup. Ouais. Il n'a pas pu intégrer l'internat, il était dans l'école préparatoire de Saint-Cyr pour son bac. Et il n'a pas pu interner Saint-Cyr parce qu'il n'est pas boursier, que son dossier n'a pas été retenu, les places sont limitées et certaines écoles privilégient en effet les élèves boursiers. Donc là, pour le coup, c'est l'effet inverse. Hein. Il ne pourra pas, il a des bonnes notes, il vient d'un milieu social aisé et il ne pourra pas faire une grande école.
Juste un élément, c'est qu'aujourd'hui, 17,5 au bac, moi je sais, j'ai à peu près eu ce résultat. Ça ne vous donne pas du tout un accès de toute façon aux prépas de façon systématique, en fait. Ça n'a plus de valeur. Ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Alors, c'est dur à entendre pour ceux qui ont juste le bac, Mais la vérité, elle est là. Il y a tout le dossier aussi qui compte énormément, le lycée d'où on vient, d'autres éléments qui sont quand même à prendre en compte.
Ouais, mais là, il était visiblement dans un lycée militaire qui est Saint-Cyr, donc une sorte de lycée d'excellence. Bon, votre coup de cœur, coup de gueule, Rafik, nous a bien fait débattre. Yves Damécourt, c'est un coup de gueule également.
Ben moi, c'est très lié avec tout ce qu'on vient de dire. Vous savez, depuis 2003, il y a une association qui s'appelle Water Footprint Network qui calcule le nombre de litres d'eau dont on a besoin pour faire un kilo de viande, un kilo de pommes, un kilo de fromage. Et donc, je pense que ces calculs, il serait intéressant de les soumettre aux lauréats de la médaille Field, parce qu'à mon avis, il y a des gros problèmes de connaissances en mathématiques. Et quand on voit que le ministre de l'Éducation nationale veut mettre l'environnement et le climat au menu de nos élèves, j'ai peur que ce soit ce type de calcul qu'on veut leur faire ingurgiter. Et ce sont des calculs très dangereux, tenez-vous bien. Ce calcul, par exemple, dit qu'il faut 15 500 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf, 5 000 litres d'eau pour produire un kilo de fromage. Et en fait, quand on rentre dans le détail de ces calculs, on s'aperçoit qu'on prend en compte la totalité de la pluie qui tombe sur le pré où broutent les vaches. Et donc, cette pluie, elle retourne au milieu naturel immédiatement et elle ne participe pas du tout à la production d'un kilo de viande de bœuf. Enfin, tout ça est complètement abracadabrantesque, pour reprendre un mot cher à feu le président Chirac. Par contre, il y a des gens plus sérieux comme Lien Rae qui a fait un calcul qui arrive autour de 500 litres d'eau pour un kilo de bœuf. Et puis, il y a une norme qui s'appelle la norme 14046, qui parle de l'eau consommée effectivement et qui, elle, arrive à un calcul de 20 à 50 litres d'eau pour un kilo de bœuf. Malheureusement, les calculs de Water Footprint Network sont publiés dans les médias, dans les journaux, sans vérification, sans calcul mathématique. Ils sont repris par les enseignants au sein de l'Éducation nationale, qui vont quelquefois contredire leurs propres enseignements sur la biologie, les mathématiques et la physique. Voilà, tout ça est très dangereux. Et c'est fait à dessein, en fait. C'est pour entraîner notre société vers le véganisme et la consommation de végétaux plutôt.
Pourquoi l'INRA aurait plus raison que... On est toujours dans ces histoires de qui a raison, qui a tort. Pourquoi l'INRA aurait plus raison que cette fondation?
Parce que, en fait, si vous voulez, tout ça part du principe que ces gens qui sont des écologistes radicaux partent du principe que l'eau se consomme comme le pétrole se consomme, alors qu'en fait, l'eau, c'est un vecteur et ça passe. Et donc, l'eau, elle passe par les ruminants, elle passe par les végétaux et elle retourne au milieu naturel. Et donc, vous imaginez bien que c'est la grenouille et le bœuf. Voilà, donc il y a un vrai problème de science derrière tout ça.
Petite page de pub, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec le coup de gueule d'Alexis Poulain et également celui d'Éric Tegner. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio. Alexis Poulain, votre coup de gueule.
Mon coup de gueule, c'est sur le retour du comptage quotidien des cas Covid. Je pensais qu'on aurait pu passer à autre chose. Maintenant qu'on a la deuxième dose de booster, la quatrième dose de vaccin, qu'on a les masques qui reviennent, hein, puisque Christian Estrosi rend obligatoire à Nice et qu'on nous conseille de les remettre dans les transports, qu'on a les gestes barrières, qu'on a ce qu'il veut, et... on nous ressort les chiffres quotidiens de Covid. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où on veut en venir avec ce truc. À un moment, il va falloir arrêter. Je crois qu'il y a une fatigue, un vrai ras-le-bol, une incompréhension aussi, puisqu'on a un ministre de la Santé qui ne veut pas réintégrer les soignants et qui pense que c'est plutôt bien de fermer les urgences le week-end. On ne va pas sauver le système de santé avec un état d'urgence sanitaire permanent, avec des mesures coercitives qui n'en finissent pas, et avec cette stratégie de la peur, hein, d'agiter toujours des chiffres qui ne veulent plus rien dire, puisqu'on n'arrive même plus à suivre en réalité. Parce que si on regarde les chiffres, la plus grosse vague, c'est pas la 7e actuelle, mais ça a été quasiment celle d'avril, pendant qu'on votait, mais il fallait pas en parler, parce qu'il y avait une campagne électorale. Donc c'est proprement dingue. Je ne comprends pas à quoi jouent les médias. Enfin, si, je comprends trop bien, malheureusement. Mais j'aimerais que ça cesse, en fait, qu'on passe à autre chose, vraiment, pour le bien de tout le monde.
Mais alors, vous l'expliquez comment? C'est une forme de...
Bon, c'est le panurgisme, c'est le fait qu'il y a que ça à se mettre sous la main, parce que finalement, la variole du singe... Non, mais bien sûr, mais si on regarde les vrais sujets, vous avez l'effondrement économique qui est là, les marchés qui s'effondrent avec la peur de la récession, l'inflation incontrôlable, la BCE qui ne sait plus quoi faire de la dette, une économie mondiale qui est à l'arrêt, l'énergie qui explose, une peur d'un mouvement bien pire que les gilets jaunes. Vous avez des grèves, on va parler des cheminots, mais vous avez la grève des gaziers en Norvège, vous avez les paysans danois ou Pays-Bas pardon, qui sont sur les routes et qui bloquent aussi pour... Il y a plein de sujets, si on veut faire peur aux gens, il n'y a pas de problème. Pourquoi le Covid reste la star numéro un des médias pour faire peur?
Alors, Stéphane vous répond, hein, c'est un fidèle auditeur, ouais. Il dit « il faut que vous voyez ce qui se passe, le manque de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD, suite à des contaminations, c'est-à-dire que ça a quand même un sens, c'est ce qu'il explique. Il m'a envoyé ce message, Stéphane, en nous disant, il m'a envoyé une affiche d'un centre de soins qui est proche, qui est frontalier avec la Suisse. En raison d'une pénurie de personnel médical dans notre service, donc radiographie, mammographie, ostéodensitométrie, scanner prescrit par médecin de ville, etc., ne seront plus assurés faute de personnel. Et pourquoi ? Et Stéphane me dit, parce qu'ils partent en Suisse, parce qu'il y a un appel énorme qui est fait en Suisse pour... il y a énormément d'offres d'emploi en Suisse où ils sont mieux payés et donc on n'a plus... mais il y a un problème quand même de contamination... aujourd'hui, donc pourquoi ne pas le dire ?
Mais alors pourquoi ? Non mais attendez, tous vaccinés, tous protégés, c'est une impasse. On se rend compte que vaccinés, on chope le Covid, qu'à contact. Enfin, non mais vous rendez compte qu'on est enfermé dans une boule de hamster là, qu'on en sort pas.
Oui, mais c'est pas la question du truc. Vous dites, j'en ai marre de ces chiffres tous les jours.
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour en sortir ? À un moment, on va pas dire, on va refaire une dose pour encore faire un truc. Il va bien falloir trouver une façon. Des traitements précoces, on en essaye. Alors je dis pas qu'il y a pas de baguette magique. Mais à un moment, je ne comprends pas, en fait, qu'on soit encore enfermé dans ce même délire, puisque ça y est, on sait ce que c'est, on a des traitements, et on a le même traitement médiatique que si c'était la première vague. Quoi. Voilà.
Pas tout à fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns et les autres, à Fixmati.
Vous savez, moi, je suis globalement, sur ce sujet, comme sur tous les autres, assez favorable à l'open data. C'est-à-dire que le fait d'avoir des données et de les partager, je considère ça globalement comme un progrès. Ensuite, la question est comment on traite médiatiquement ces données. Et ça, c'est un autre sujet. En même temps, vous voyez, moi hier, par exemple, j'ai pris l'avion, et bien j'ai eu un réflexe, j'ai mis un masque. Alors que ce n'était pas le cas, forcément, il y a quelques jours, ni quelques semaines. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un pic épidémique, et il y en a aujourd'hui, et je connais personnellement un certain nombre de personnes qui l'ont eu, et même dans des conditions très graves dans le mois qui vient de s'écouler. Donc, c'est une réalité, il ne faut pas la dissimuler maintenant, il faut regarder les choses froidement. Et puis, comme le disait à juste titre Alexis Poulain, il y a d'autres grandes menaces.
Il y a d'autres sujets.
Le choc énergétique, le choc inflationniste, qui sont extrêmement dangereux et qui laissent entrevoir un automne et un hiver très compliqués. Donc, il faut rester lucide, mais ne pas être dans le déni non plus de ce qui est en train de se passer avec cette septième vague.
C'est dans ce sens-là qu'il y a une information, effectivement, où peut-être que certaines personnes qui n'ont pas envie de tomber malade prennent peut-être plus de précautions. Rapidement, Eric Tegner, Yves Damécourt, sur ce sujet.
Moi, c'est très simple. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup d'inflation, de crise économique qui va venir et qui va s'aggraver. Pourquoi ? Parce qu'on fait le constat qu'aujourd'hui, on n'a plus de quoi dépenser, on n'a plus de quoi investir parce qu'en fait, on a fait, d'une certaine façon, on a cramé la caisse. Eh bien, quand est-ce qu'on l'a fait ? On l'a fait en partie aussi en raison du quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire à un moment donné. Ça veut dire qu'on aurait aussi pu sortir beaucoup plus tôt de cette crise, mettre les entreprises à nouveau sur le marché du travail beaucoup plus vite. Simplement, on ne l'a pas fait parce qu'on avait l'impression qu'il y avait cet argent magique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette peur qui est faite sur le Covid, ce n'est pas uniquement quelque chose de médiatique. À un moment donné, ça crée des impacts, ça fait que les décisions publiques sont d'investir là-dedans au lieu d'investir dans l'hôpital, d'être sur une logique de court terme. Et effectivement, les sujets de demain, c'est comment on va justement faire en sorte de tenir face à l'inflation qui est d'ailleurs sous-estimée aujourd'hui, face à un contexte international qui fait également que le président de la République a finalement très peu de marge de manœuvre.
Oui, Yves Damécourt.
Oui, moi je pense que depuis longtemps, les scientifiques nous expliquent que les nouveaux variants seront de plus en plus contagieux et de moins en moins virulents. Et donc, le nombre de personnes qui ont le Covid n'est plus une information dimensionnante. Celle qui reste dimensionnante depuis le début, c'est le nombre de personnes en réanimation, et c'est ça, en fait, qui est important. Donc, je pense que c'est pas utile de donner le nombre de gens qui sont contaminés. Par contre, les lits en réanimation, ça, c'est important, et ça doit nous guider pour les mesures que nous prenons.
Absolument. On a un auditeur qui voulait réagir. Guy est en ligne avec nous. Vous nous appelez de Paris. Bonjour Guy.
Bonjour Valérie, bonjour messieurs. Bonjour. Merci pour cette belle émission. Alors, je continue, je redis je redirai toujours les mêmes choses. Je suis solide dans mes bottes. J'ai 72 ans, donc j'ai vu la dégradation pendant ces 50 dernières années, à savoir des présidents qui n'ont pas su gérer, hein, qui sont allés pour satisfaire ce peuple, caresser dans le sens du poil, caresser toutes les obédiences, qui ont puisé dans la caisse, comme a dit ce monsieur, ont puisé dans la caisse, des emprunts. Mais on a permis à des entreprises de fuir le pays. Or, si on veut résoudre tous les problèmes, c'est le travail. Parce que le travail apporte de la richesse. Alors, je suis d'accord pour qu'un gouvernement investisse, mais il peut investir, lui, être propriétaire au départ d'entreprises, copier les entreprises qui ont pris la fuite, ou forcer ces entreprises qui veulent vendre en France, quelque peu, les forcer à mettre de la fabrication en France. Fais travailler celui à qui tu demandes d'acheter tes produits. Bien. Oui, oui. Et ensuite revendre ces entreprises. D'accord ? Ne pas les garder en permanence en propriété. Mais du travail. Avec le travail, et ben les parents de ces jeunes qui sont dans les cités, les parents auront du travail et on pourra exiger.
D'accord, mais merci Guy. Je pensais que vous interveniez sur le Covid, donc on est un petit peu à côté du sujet, mais on entend tout à fait votre message. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Eric Tegner, votre coup de gueule, on a hésité à le faire en sujet, et puis on s'est dit qu'il y en a bien un d'entre vous qui en parlerait, c'est l'affaire Taha Bouaf versus la France insoumise.
Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur au final, parce que ça m'amuse quand même ce qui se passe là-bas d'une certaine façon, on va être honnête. Vous vous rappelez effectivement l'histoire de Taha Bouaf qui a dû se retirer de la campagne des législatives de la France insoumise. Au début, il disait c'était parce que c'était son explication officielle, il y avait des accus, il y avait du racisme à son égard, notamment venu de l'extrême droite, comme il disait. Et ensuite, on a découvert qu'en fait, il y avait eu des accusations internes à la France insoumise pour harcèlement sexuel auprès de Taha Bouaf. Et à ce moment-là, Clémentine Autain, d'ailleurs, s'était retrouvée dans une situation complexe où elle avait du mal à justifier si elle était au courant avant, etc. Bref, ce qui s'est passé, c'est que hier, Taha Bouaf, du coup, a fait un communiqué de presse où, en fait, il a dénoncé clairement Clémentine Autain en disant que Clémentine Autain avait menti et que lui n'avait pas eu le droit d'avoir une contradiction. Et donc, moi, ce que je voudrais mettre en avant, parce que cette affaire est compliquée, c'est le communiqué de presse de la France Insoumise. Et il y a une partie, je vous lis, c'est Taha Bouaf qui cite Clémentine Autain. Quand Taha Bouaf dit à Clémentine Autain, écoutez, il faut quand même que je sois confronté, parce qu'il n'était pas au courant des faits qu'on lui reprochait, il n'était pas au courant de la personne qui lui reprochait ces faits, donc il pouvait rien dire. Vous voyez, il se retrouvait avec quelqu'un qui disait, bah, t'as été accusé de harcèlement sexuel, on va rien te dire, mais en revanche, tu dégages. Et du coup, qu'est-ce que lui a dit Clémentine Autain? Elle lui a dit, je cite, « Non, nous ne sommes pas des juges, pendant 1000 ans, les femmes n'ont pas été entendues, tu payes peut-être aussi pour les autres, mais c'est comme ça, c'est un parti pris politique. » J'imaginais. C'est-à-dire qu'en fait, parce que selon Clémentine Autain, les femmes ont payé pendant 1000 ans, et bien maintenant, dès que quelqu'un va être accusé, d'ailleurs absolument pas devant la justice, hein, devant juste un groupe politique, et bien il va falloir qu'il paye pour les autres. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que par rapport à Coquerel, président de la commission des finances, il n'y a pas du tout le même traitement. Et là où d'une certaine façon ça m'amuse, c'est qu'en fait, ils ont, et là où en même temps c'est dangereux, ils ont essayé de créer une instance interne qui est assez délirante parce qu'ils rendent justice en fait, sans passer par la justice, eh bien le serpent finit par se mordre la queue. Et ils ont créé un monstre qui va certainement les dévorer de l'intérieur parce que les féministes, les écolos, etc. en profitent à max pour en fait essayer de déglinguer tous ceux qu'ils n'aiment pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Coquerel. Donc voilà, moi c'était vraiment le coup de gueule d'un côté, parce que ça montre à quel point ces gens-là n'ont aucune espèce de rationalité, à quel point ils sont dangereux, et qu'à un moment donné, il y a la justice qui est là. Donc il faut que les gens, évidemment, ils aillent porter plainte. mais on va pas faire des instances internes comme ça.
Les gens, il faut qu'ils aillent porter plainte. Les gens, ils vont pas toujours porter plainte parce que c'est pas toujours facile pour une femme d'aller porter plainte. Et c'est ce qu'a répondu Clémentine Autain. Elle a dit les plaignantes ne voulaient pas. Donc c'est toute la complexité du truc. On parle pas d'un vol, on parle pas d'une dégradation d'un bien, on parle d'un viol. Donc les femmes ne vont pas porter plainte. Il y a que 10% des femmes violées qui vont porter plainte. Donc qu'est-ce que vous, enfin les arguments, c'est une affaire effectivement compliquée. Alexis, vous avez suivi ça, j'imagine aussi.
J'en ai parlé dans mon
Alors attendez, il y a la pub, vous répondrez dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, on a pris beaucoup de temps pour les coups de cœur et les coups de gueule, mais à chaque fois c'était des débats intéressants. Alexis, peut-être juste un mot sur l'affaire Tahabouaf et la France Insoumise.
Oui, c'est ce que j'expliquais ce matin dans votre édito, c'est qu'il y a un problème de justice. Alors que ce comité sur les violences sexuelles et sexistes existe, ça fait partie des CHSCT, enfin ça existe aussi dans les entreprises, ça permet d'avoir des alertes. Après, c'est à la justice de faire le boulot. Et le problème justement, c'est que sur 94 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles, en 2018, il y avait simplement 1200, viols condamnés. Donc c'est 1,3 accusations pour plus de 100 de femmes, un peu plus d'1%, donc c'est rien. Et effectivement, le problème, il est là, c'est les moyens de la justice pour traiter ces cas-là, la difficulté aussi quand on est victime de témoigner, d'aller au bout de la démarche. Et donc, s'il y a des instances qui accompagnent la parole, c'est tant mieux, mais il faut que ce soit dans un cadre où la justice peut faire son travail. Et là, ce que dit Tahabouaf, c'est qu'il n'a pas eu de contradictoire. C'est qu'il n'a pas pu être confronté justement à ses accusatrices ou à ses accusations en l'occurrence et se défendre. Or, la justice sans défense, c'est pas la justice. C'est un tribunal populaire, c'est ce que vous voulez, mais c'est certainement pas digne de ce nom. Et donc, la limite de l'exercice est là. Et puis, il faut pas tout comparer. On ne connaît pas les cas pour Tahabouaf en détail. Pour Coquerel, on est sur de la drague lourde, enfin des trucs. Elle parle, Sophie Tissier, qui l'accuse, parle de regard gluant. Je ne sais pas le regard gluant, ce que ça vaut dans la nomenclature de la violence sexiste. Mais il y a un peu certaines différences à traiter. Et puis après, vous avez le cas d'Amir Abad, mais aussi un autre élu qui est aussi accusé. Enfin, les accusations pleuvent très bien. C'est à la justice de faire le tri et de rétablir la vérité ou les vérités. Et puis surtout, la justice, c'est bien le problème central.
Sauf que quand vous donnez les chiffres et que vous dites qu'il n'y a que 1% des plaintes qui aboutissent à une condamnation, on voit aussi la réticence que peuvent avoir certaines femmes à porter plainte.
Juste un élément. Éric Tegner. Alors, ça vous paraît peut-être stupide ce que je dis, mais on n'est pas en train de dire qu'il n'y a qu'un pour cent des femmes qui se disent victimes de violences sexuelles dans le monde politique. Non, mais ça veut dire que ce qu'il faut
mettre en général. Non, c'est pas dans le monde politique, c'est en général. C'est pas dans le monde politique.
Mais bien sûr, mais ce que je parle là, c'est qu'il y a une instrumentalisation aussi dans le monde politique de ces affaires-là. Et il ne faut pas le nier de ce côté-là. Ce n'est pas la même chose que dans une entreprise, même si ça peut être compliqué, ou dans la vie générale, où cette jeune femme qu'on a vue il y a deux semaines, où effectivement celui qui était condamné n'a pas fait de prison. Là, on est dans une situation aussi, on l'a vu nombreuses fois, on se retrouve avec des femmes qui en fait vont juste vouloir se venger, parfois aussi par idéologie, ou pour elles de la drague, c'est du harcèlement sexuel. Et ça, c'est compliqué pour être du coup d'autant plus prudent. Parce que les affaires sortent toujours une fois que la personne est nommée ministre ou qu'elle accède à un
Alors poste. Je le répète depuis le début de la semaine, c'est que c'est aussi le déclenchement d'une douleur pour quelqu'un de voir en lumière une personne qui vous a fait du mal, enfin où vous jugez qui vous a fait du mal et qui est sous les ordres de la République ou qui reçoit des honneurs. Ça a été le cas de Nicolas Hulot. Il y a des plaintes qui sont sorties une fois qu'il a été nommé ministre parce que c'est insupportable de voir pour des femmes qui ont été agressées ou pour toute autre victime de voir porter à des postes de responsabilité des gens qui ne sont pas corrects. Donc de dire ça arrive à ce moment-là comme par hasard, parce que comme par hasard vous vous dites ce salaud, ce salaud obtient ce poste alors que personne ne sait ce qu'il a fait.
Là où vous avez raison, mais en revanche dans ce cas-là il faut poser la question de façon très honnête, c'est est-ce qu'on va considérer que face à cette injustice de nombreuses femmes qui ne se voient pas rendre justice, il faut partir du principe que il vaut mieux avoir des gens qui sont des innocents et qui se font pilonner sur la place publique et pilonner leur carrière pour éviter qu'il y ait des coupables en liberté. Voilà, c'est une question, mais il faut la poser de façon honnête.
La réponse, elle est aussi qu'il y a je ne connais pas énormément de femmes, enfin, après c'est des histoires d'appréciation, qui font ça par vengeance ou qui le feraient. Ça existe forcément, mais je ne pense pas que la proportion soit si importante que ça, parce que vous en prenez plein la gueule, Éric Tegner, enfin regardez
Sophie
Tissier.
Non, parce qu'elles sont protégées.
Mais elles sont protégées par qui, Sophie Tissier, mais toutes, l'accusatrice dans un autre domaine de Luc Besson, qui a été traitée de call girl, voire de pute, accusatrices de Gérald Darmanin, les accusatrices de PPDA,
je vais pas les citer, chez les Républicains, il y a pas mal de responsables qui ont dû mettre leur carrière, parfois aussi dans les mouvements de jeunes républicains, en stand-by pendant 2 ou 3 ans, les femmes, on les connaissait pas, les femmes accusatrices, elles étaient protégées. Et après, finalement, la justice a dit qu'il ne s'était passé rien. Et là, il y a des procédures en diffamation qui sont en cours.
Allons-y sur la diffamation. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut, la diffamation, puisque la diffamation, vous êtes obligé d'aller sur le fond. Et je le répète
bien sûr, mais
jours,
vu que les gens disent qu'il y a que 2%, vu que les gens disent qu'il y a 2% des femmes qui finalement obtiennent justice, eh bien, les gens se disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas flinguer la vie de tout le monde en envoyant des accusations.
Non, mais globalement, je peux vous dire en off que quand il y a eu ici des accusations portées sur des gens qui étaient proches de certaines personnalités politiques, c'est compliqué, disaient « bah oui, on le savait » ou « bah oui, ça ne nous étonne pas ».
Parce que c'est les bruits de couloir aussi.
Bah oui, mais les bruits de couloir, est-ce qu'il y en a à votre sujet? Est-ce qu'il y en a au sujet de Rafik Smati? Est-ce qu'il y en a au sujet d'Alexis Poulain? Non. Ou de Yves Damécourt, pardon.
Bah, les bruits de couloir sur certains membres du gouvernement, il y en a plein encore aujourd'hui. Simplement, les gens n'y accordent pas d'importance. Et le jour où il se passe quelque chose, ils disent « Ah, on le savait ». Ça arrive quand même très souvent. Hein, si vous...
bah oui.
Les
mais
gens,
le
les
savait.
Républicains qui disent « Abad, on le savait », il y a plein d'autres personnes
bah oui,
dont ils parlent. Des personnes qui n'ont pas que par rapport à des femmes, qui ont par rapport à des jeunes hommes, parce que ce sujet-là, on n'en parle jamais, hein, des sujets de la pédophilie, ça, on n'en parle pas. Donc pour l'instant, personne ne le dit.
Rapide.
Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir la boîte de Pandore, quoi.
Rafik Smati et Yves Damécourt sur ce sujet.
Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, on est aujourd'hui pris au piège parce que le temps de la justice n'est pas le temps de l'action, le temps médiatique. Et donc, il faudrait qu'on arrive à trouver une solution pour que sur ces affaires-là, qui sont des affaires qui intéressent beaucoup la population et les médias, et à juste raison, on puisse avoir des cellules de justice qui puissent prendre des positions rapidement pour que derrière le temps de la justice se rapproche du temps médiatique. Sinon, on est pris en fait entre deux feux. Et donc, personne n'a envie d'accuser des innocents, mais personne n'a envie de laisser exercer des responsabilités aux coupables. Donc, je crois que tout le monde est d'accord sur les objectifs. Il faut qu'on trouve des solutions pour rapprocher ces deux temps.
Oui. Rafik, rapidement.
Je crois qu'il est très important, malgré tout, de faire en sorte que la parole des femmes continue à se libérer. Ensuite, moi, je fais confiance à la justice française. Alors, modulo la question du délai dont vient de parler Yves Damécourt, qui est un vrai sujet, vous avez rarement en France des personnes qui sont accusées à tort, qui sont considérées comme coupables alors qu'elles ne le sont pas. C'est extrêmement rare. Donc, moi, je suis favorable à ce que la parole des femmes continue à se libérer parce que, précisément, beaucoup ne se libèrent pas ou ne disent pas ce qu'elles ont à dire parce qu'elles entendent peut-être des discussions telles qu'on en a maintenant où elles se disent par anticipation que leur parole sera mise en doute. Donc, que la parole des femmes soit entendue, que la justice fasse son travail, que les coupables soient punis, que celles qui ont menti soient poursuivies en dénonciation calomnieuse. Et la seule réserve que j'émets, c'est que, dans la mesure du possible, que tout cela puisse aller plus vite, moyennant une cellule, comme l'a suggéré Yves Damécourt.
Allez, je voudrais parce qu'on n'a du coup pas traité trop nos sujets. Elisabeth Borne, on a beaucoup fait de politique. Je voudrais quand même qu'on parle de ces Françaises rapatriées de Syrie. La France a rapatrié hier 35 enfants et 16 mères détenues dans des camps djihadistes en Syrie. Les enfants ont été remis au service d'aide à l'enfance. Les mères, elles, ont été remises aux autorités judiciaires. 7 ont été incarcérées. La 8e devrait l'être aujourd'hui. Et parmi elles, Émilie Koenig, l'une des djihadistes françaises les plus connues. Elle a été mise en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Bref, on nous avait dit qu'on ne rapatrierait pas ces femmes. Et après, bon, ça pose... d'ailleurs, ça rejoint, enfin, pas tout à fait notre débat précédent, mais pourquoi les femmes seraient moins coupables que les hommes? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mansuétude à l'égard des femmes, peut-être parce qu'elles ne vont pas au combat, mais pourquoi on ne les traite pas comme les hommes? Yves Damécourt.
Oui, moi je voudrais intervenir sur ce sujet-là parce que je ne comprends pas le processus qui est suivi depuis toutes ces années par le gouvernement et par le président de la République. Je ne comprends pas que le président de la République n'ait pas pour juger les djihadistes, leurs épouses, mis en place un tribunal militaire aux armées. Parce que le tribunal militaire aux armées, c'est ce qu'avait fait George W. Bush pour, après les attentats du 11 septembre, il a l'intérêt de pouvoir se former en dehors du territoire national. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un territoire aux armées français se soit tenu en Syrie et juger toutes ces personnes là où elles sont, et qu'ensuite, on ait pu prendre des décisions sur le rapatriement ou pas des familles, des djihadistes, de leurs épouses. Le cas des enfants, ça c'est autre chose, et bien sûr que les enfants ne sont pas coupables et doivent rentrer.
Bah, c'est aussi une question. Hein. Une auditrice m'envoie une vidéo, effectivement, d'un reportage d'envoyé spécial où on voyait des gamins de 6-7 ans à qui on montrait des décapitations et des assassinats et qui jubilaient en disant bah, « moi, je l'aurais tué de mes mains ». Donc, c'est des gosses dont on… Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je ne sais pas, mais qui ont quand même été soumis à une vie très, très particulière. Alexis Poulain?
Oui, bah, c'est des traumatisés, donc il faut traiter ces traumatismes. Ça dépend de l'âge, ouais, bien sûr, de ces enfants, de la famille aussi, qu'il va y avoir autour. Il y a à la fois un parcours social de réintégration de ces enfants, et on sait très bien que la déradicalisation a ses limites. Hein. Et puis après, il y a un parcours de justice sur ces traîtres à la patrie qui sont partis combattre. Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour éviter qu'ils ne deviennent des ennemis de l'intérieur par la suite? Est-ce qu'on sait que leur repentir est réel ou non? Donc il y a un vrai sujet de sécurité intérieure et puis un sujet social de ces enfants qui sont des victimes également.
Mmh. Victimes où certains disent bon bah retardement aussi.
Bah, oui, ça, il suffit de traiter. Il va falloir traiter ce traumatisme, effectivement,
bah, suffit,
et s'assurer que ce ne
suffit,
sont pas des bombes à retardement.
Oui. Personne n'a réussi à prouver que la déradicalisation fonctionnait.
Non mais. Ça dépend. Pour les adultes, c'est différent. Pour les enfants, on peut espérer qu'il n'y a pas une programmation. On a affaire à des êtres humains et qu'on peut arriver à les sortir de cet enfer.
Oui. Rafik, Smati.
Et moi, sur ce sujet-là, j'ai un avis assez tranché. Je considère que dans certains cas, il y a quelque chose qui doit s'exercer. Ça s'appelle la raison d'État. Des personnes qui ont déclaré la guerre à la France n'ont pas leur place chez nous. Alors, il y a des cas particuliers qui peuvent se traiter, et on a en France toutes les structures qui peuvent analyser ces cas particuliers, mais la norme doit être tu as décidé de déclarer la guerre à la France, eh bien, tu n'es pas en France chez toi. Et à minima, que l'on réhabilite la notion d'intelligence avec l'ennemi. Parce qu'une personne qui est allée signer un contrat avec Daesh pour déstabiliser l'Occident et la France en particulier, eh bien, pour moi, ça s'appelle être un traître à sa nation, c'est de l'intelligence avec l'ennemi à l'état pur. Alors oui, il y aura peut-être des dommages collatéraux, oui, il y aura peut-être parmi ces quelques dizaines de femmes, des personnes qui auraient été récupérables, eh bien tant pis. Il y a quelque chose qui est au-dessus du reste, c'est l'unité de notre nation, c'est son intégrité. Et s'il y a un doute, eh bien, c'est la France qui doit avoir le bénéfice du doute. Ce ne sont pas ces terroristes qui sont allés nous défier de l'extérieur.
Parce qu'on voit, on va y revenir.
D'un tribunal militaire.
Ouais, on va y revenir dans un instant. On marque une petite pause et à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi. Nous revenions sur cette affaire de femmes françaises rapatriées de Syrie, 16 mères, 36 enfants. Qu'en pensez-vous, Éric Tegner, sur ce sujet? Est-ce que vous êtes comme Rafik Smati? Ce sont des ennemis d'État et ils doivent rester là-bas. Enfin, de toute façon, ils sont rentrés maintenant.
Je suis d'accord avec ce que dit Rafik Smati. D'ailleurs, c'était une politique aussi qui avait été menée par Hollande de façon un peu différente lorsqu'il avait lui-même assumé avoir fait éliminer des Français qui étaient justement avec Daesh. Quand les gens nous entendent, ils peuvent se dire « Ah, c'est complètement excessif ». Ben moi, je vais vous citer des chiffres. Vous voyez, la France, elle a rapatrié 217 mineurs et 320 adultes. Pour prendre le cas de la Belgique, où il y a quasiment autant de Belges qui sont partis à Daesh que de Français qui sont partis chez Daesh, il y a moitié moins de rapatriements. Et enfin, pour prendre le cas de l'Allemagne et les pays scandinaves, surtout les pays scandinaves qui sont connus aussi pour avoir des politiques très humanistes, humanitaires, etc., ils n'en ont rapatrié que 60. Donc, c'est-à-dire que c'est très faible. D'ailleurs, non, même pas, une dizaine de revenants, si je prends bien les chiffres. Donc, à un moment donné, ça montre que les autres pays européens y mènent cette politique, justement, que dit Rafik Smati. Alors, ils le mènent de façon pas aussi frontale, hein. Il y a plutôt de l'hypocrisie, ils les laissent là-bas. Mais moi, je suis assez d'accord. Après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir ce qu'on en fait de ces revenants ici en ce moment, comment c'est traité. Est-ce que ces personnes-là qui ont fait 96 heures de garde à vue, est-ce qu'elles sont relâchées dans la nature en attendant une convocation du juge ? Comment ça se passe en fait ? Donc ça m'intéresserait d'avoir des détails. Et l'autre élément, c'est qu'il faut avoir en tête également, et c'est un sujet qui est lié, c'est que cette année et depuis l'année dernière et dans l'année qui vient, on assiste à un moment où il y a énormément de gens qui ont été mis en prison pour justement intelligence avec des terroristes, etc., dans les prisons, qui sont en train d'être libérés et qui vont être libérés. Donc ça montre deux choses, c'est que le danger du terrorisme, il est encore présent et il va aller en s'augmentant. Et deuxième élément, c'est que de toute façon, on n'a pas aujourd'hui l'arsenal judiciaire pour empêcher des gens de ne faire uniquement que 4 ou 5 ans de prison et après ressortir radicalisés, parce qu'il faut savoir qu'à Fleury-Mérogis, hein, ils sont tous entre eux.
Bah, d'un point de vue encore plus terre à terre, c'est-à-dire que la France qui a déjà un taux d'occupation de ses prisons extrêmement important, nous allons payer pour l'emprisonnement de ces femmes.
Et beaucoup des jeunes de quartier ou d'autres se retrouvent aussi liés à des islamistes, des gens qui sont allés combattre, et donc ils leur proposent justement un modèle qui est d'aimer Allah, etc. Il y a un côté communautaire, c'est dans les prisons, il faut avoir des groupes, hein, sinon ça peut être dangereux. Et là-dessus, justement, les islamistes exercent énormément d'influence qui est néfaste et qui radicalise des gens qui n'étaient pas en rentrant en prison.
Comment vous comprenez la décision politique qui a été faite de rapatrier ces femmes et ces enfants alors qu'on nous avait dit le contraire jusqu'à il n'y a pas très longtemps ? C'est assez étonnant, d'autant que parmi celles-ci, encore une fois, certaines sont des femmes qui assument totalement d'être parties là-bas pour rejoindre l'État islamique. Rafik Smati. Ah, on n'entend pas Rafik.
Ouais. Je ne l'explique pas. Je pense très sincèrement que sur ce sujet-là, plus que sur tous les autres, il faut montrer que nous n'avons pas la main qui tremble et que nous sommes capables d'affirmer des positions extrêmement tranchées. Je rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale, ni plus ni moins. C'est pas un petit sujet, donc je ne l'explique pas, très honnêtement.
Oui, non, mais c'est pour ça que je pose cette question. Vous, Alexis Poulain, vous sembliez être un peu plus clément face à ces femmes.
Clément, non, je pense que c'est... Non, je posais la question de la justice, à savoir est-ce qu'on est équipé par rapport aux crimes qu'ont commis ces femmes, à l'enquête aussi, à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement quand elles étaient dans le califat. Est-ce qu'on a les moyens de faire une enquête poussée, d'établir les crimes et de condamner ces femmes qui ont trahi la France et qui ont combattu la France. Donc c'est important de savoir que peut faire la justice. Je pense que non, le cas par cas, c'est évidemment le volet social sur ces enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Sont-ils sauvables et quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour les sortir de la radicalisation dans laquelle ils ont été forcés
plongés,
et contraints par leur mère ?
Oui, absolument. Mais politiquement, en tout cas, Yves Damécourt, on a du mal à comprendre la décision de l'État.
En fait, en France, on veut toujours juger avant de décider. Et donc, je reviens sur ma proposition initiale, c'est qu'on a la possibilité de juger sur place avant de déplacer les gens, et ça s'appelle un tribunal militaire. Et le tribunal militaire, il a tous les outils aujourd'hui pour décider, par exemple, d'une intelligence avec l'ennemi, c'est même son métier, on est en temps de guerre, et l'intelligence avec l'ennemi ouvre le droit à la déchéance de nationalité. Et donc, en fonction des gens qu'on a jugés, eh bien, on peut les déchoir de la nationalité et les laisser sur place, ou alors admettre qu'ils gardent la nationalité française et les ensuite les ramener en France. Le problème, là, c'est des espèces de trucs où on dit on ramène tout le monde et on jugera en France. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que les tribunaux français ne peuvent se réunir qu'en France. Et donc, il faut une justice d'exception. On est en temps de guerre, c'est un tribunal militaire. C'est ce qui s'était passé en 1961 pendant la guerre d'Algérie. La France n'a jamais remis en route ce dispositif depuis, mais je pense même que pour le jugement de Salah Abdeslam et des attentats du 13 novembre, c'est un tribunal militaire qui aurait dû juger les djihadistes et pas un tribunal civil comme ça a été fait. Et les choses auraient été différentes.
Si je peux me permettre d'ajouter un élément aussi, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, on parle de femmes qui sont partis combattre chez Daesh. Et on réalise qu'il y a beaucoup de femmes. Pourquoi c'est important de le mettre en avant? Parce qu'en France, aujourd'hui, on a souvent des femmes qui vont porter le voile et qui vont faire en fait de la propagande islamiste. Et parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles vont bien parler, parce que d'une certaine façon, il y aura une communication léchée, on va se dire « Ah non, mais c'est une femme quand même pas. Elle ne peut pas demain être une islamiste, elle ne peut pas devenir une terroriste. » Eh bien, c'est faux. Il y a dans justement beaucoup d'études qui ont été faites le fait que les femmes peuvent être, en tout cas d'un point de vue statistique, au niveau des islamistes, plus motivés, plus déterminés que les hommes. Moi, c'est important. Et sur votre question du où on en est, écoutez, moi, je vais vous citer le film de Diams, qui fait du prosélytisme. Faut le regarder, ce film. Il est absolument dingue. C'est 1h30 pour expliquer aux gens qu'il faut se convertir, etc., la promotion du voile. La réponse, elle est là. Elle est qu'il y a à un moment donné toute une propagande qui est aussi véhiculée par des associations qui font du lobbying, justement, pour les ramener, tandis que personne ne se bat véritablement, à part dans les médias, pour faire en sorte qu'ils restent là-bas.
Alors, faut pas tout mélanger.
Bien sûr, je dis pas que les femmes sont des terroristes.
Mais moi, ça m'a posé la question, on parle d'égalité homme-femme, pourquoi les femmes seraient moins dangereuses que les hommes? Pourquoi on a rapatrié ces femmes? Sur les enfants, la question peut se poser, mais ces femmes, pourquoi est-ce qu'il y aurait un devoir d'humanité envers de femmes traîtres à la patrie, et pas pour des hommes? Je pense pas qu'on aurait rapatrié
des
hommes.
Vous allez me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais on dirait Boris Johnson qui expliquait que si Poutine était une femme, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. En fait, c'est vraiment des visions que je trouve d'ailleurs ultra... mais c'est le même lien.
Est-ce que vous allez regarder cet après-midi le discours de politique générale d'Elisabeth Borne? Qui va regarder?
Oui, bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Oui. Et vous pensez que ça va se passer comment? Qu'il va y avoir du chahut? Qu'il y aura cette motion de défiance, oui, allez-y.
Moi, ce qui m'intéresse, Valérie Expert, c'est pas le spectacle qui sera donné par la France insoumise,
oui, c'est le
spectacle
fond.
Forcément pathétique. Ce qui m'intéresse, c'est que va annoncer la Première ministre. Est-ce qu'elle aura le courage de s'engager dans des réformes de fond, et notamment la réforme des retraites dont notre pays a tant besoin? Le seul sujet aujourd'hui qui devrait tous nous mobiliser, c'est que la France puisse en sortir par le haut. Tout le reste, c'est de la gesticulation politique, et la France insoumise et tant d'autres porteront une lourde responsabilité dans les années qui viennent si la France n'était pas au rendez-vous de l'histoire.
Oui, mais elle sera certainement obligée de composer justement dans son discours de politique générale, compte tenu de tout ça.
C'est une bonne chose, mais alors il n'y a pas de vote de confiance puisque la légitimité du Premier ministre dans la Ve République vient du président. Mais oui, elle va sans doute esquisser un plan de gouvernement en disant voilà, on aura besoin de majorité en fonction des réformes et des projets de loi qu'on va pousser à l'Assemblée. Et c'est tant mieux qu'il y ait un débat au sein de l'Assemblée parce que les mois qui viennent vont être agités socialement.
Voilà, merci, pardon pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, mais on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio.